going. Notre prière juste avant de commencer l'étude de la parole, et nous allons commencer notre quatrième session sur le livre de Ruth. Et donc c'est le chapitre 4, mais en fait nous allons voir tout le livre du chapitre 3 au chapitre 4. On voit dans la littérature hébraïque, hein, donc dans le que ce livre est très bien écrit, il paraît. Mon niveau d'hébreu n'est pas là, mais on me dit que c'est très bien écrit, c'est très littéraire. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi cette petite histoire là dans la Bible. Qu'est-ce qu'elle nous apporte doctrinalement? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Pourquoi elle est là? C'est certainement plus que pour une histoire à lire aux enfants, et c'est une histoire qui peut être lue, elle s'y prête très bien. Mais pourquoi est-ce que ce livre est là? Et donc, en cherchant quelques détails et tout ça, bon, j'ai remarqué que dans la version hébraïque, donc le Tanakh, eh bien, le livre de Ruth se trouve en 18e position, hein, dans la troisième série de livres qu'on appelle les écrits, et c'est là où se trouvent les psaumes, les proverbes. Et en fait, le livre de Ruth se trouve entre le Cantique des Cantiques et puis les Lamentations de Jérémie. C'est intéressant, mais voilà la position que ça a dans la version hébraïque. Un autre détail que je pourrais souligner, c'est le fait que, en fait, les Moabites, parce qu'on parle toujours de Ruth la Moabite, mais les Moabites ont réellement existé. Et en archéologie, eh bien, on a pu trouver la stèle de Mécha, qui se trouve actuellement dans le musée du Louvre à Paris, et sur laquelle, eh bien, il y a tout un récit fait par un roi de Moab. Et il fait mention aussi de leur divinité Kemosh. Mais sinon, le livre de Ruth est lu chaque année dans les synagogues. Et donc, si un jeune enfant s'approche du rabbin et lui demande et dit « Mais pourquoi est-ce qu'on lit cette histoire chaque année ?» L'une des nombreuses réponses qui sont données, eh bien, sont le fait que cette histoire de Ruth rappelle aux enfants d'Israël qu'il y a un moment où ils n'étaient pas croyants, ne connaissaient pas Dieu, et ils l'ont rencontré et ils ont fait le choix de le suivre. C'est ce qu'a fait Ruth, hein, mais il nous dit que c'est un rappel que le peuple juif, donc appelé le peuple de Dieu, mais il y a un moment où ils étaient païens. Hein, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ne connaissaient plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein, Moïse est arrivé vers eux, il a dit « Mais le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, m'est apparu et il veut vous sortir d'ici. » Et eux ne le connaissaient pas. Hein, c'est une drôle de manière de définir, dire c'est le Dieu de nos pères et il date de plus de 400 ans. Hein, donc ils n'ont pas de nouvelles. Eux, ils étaient devenus vraiment païens. Et donc, sous la direction de Moïse, ce peuple va sortir de l'Égypte et va se présenter à Dieu Et c'est là qu'ils vont vraiment faire la connaissance de Dieu, c'est au pied de l'Horeb, dans le mont Sinaï. Et pour souligner le fait que, en fait, c'est un moment où c'est un moment carrefour, c'est une étape importante pour eux. Eh bien, lorsque nous lisons les premiers commandements du Décalogue, hein, eh bien, ça commence par, et je vais lire, il nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » Voilà combien il signifie. C'est pas le Dieu que vous connaissez, il dit c'est celui que vous connaissez pas, mais c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de la servitude. C'était la seule référence qu'il avait, c'était la seule manière dont il pouvait dire voilà ce que j'ai fait pour vous. Et il ajoute, et voilà où il leur demande de faire un engagement, hein, il dit tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Premièrement, s'il le dit, c'est parce qu'ils auraient cette tendance, parce qu'ils avaient cette habitude, ils connaissaient que l'Égypte, et il dit, tu ne feras point d'image taillée. Tu ne représenteras d'aucune manière une divinité. Deuxièmement, il dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Hein, donc il dit non, seulement est-ce que tu ne feras pas une représentation, hein, je suis le Dieu qui s'est montré à toi, révélé à toi par une intervention et pas par une forme. Deuxièmement, je ne veux pas être représenté. Et troisièmement, eh bien, tu n'adoreras pas, tu ne te prosterneras pas devant une idole, mais tu te prosterneras devant moi, moi que tu ne vois pas, mais qui suis là. Hein, c'est un peu la même chose que Jésus a fait avec la femme samaritaine. La conversation allait bon train, il y avait la discussion, elle était gentille et tout ça. Et il y a un moment où la femme samaritaine hein, de Sichar dans Jean chapitre 4, elle dit « Mais nous adhérons sur cette montagne et vous, vous dites que c'est à Jérusalem. » Alors, ben, chacun sa religion, tous sont... À partir du moment où ils s'inscrivent, c'est bon. Et Jésus dit « Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. » En fait, Jésus va lui dire, il dit « L'heure vient. » Et elle est déjà venue, hein, donc il a dit, ben, le présent, hein, dans le présent, voilà comment les choses se font. C'est où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il dit donc, si nous voulons adorer Dieu, il dit, faites-le comme je vous demande de le faire. Hein, c'est pas vous qui décidez, mais c'est faites-le. Pour moi, c'est ce qu'il a dit dans le Sinaï, il a dit, écoutez, je me présente, mais si vous voulez que je sois votre Dieu, voilà comment il faudra faire. Hein? Et beaucoup de gens, ils ont cette tendance, ils disent, mais écoute, Dieu, c'est moi qui décide, et puis, faut que ça te plaise. Il dit, non, quand on vient à Dieu, eh bien, c'est lui qu'on doit plaire. Hein? Et donc, je reviens au récit des enfants d'Israël en Égypte, et ils étaient devenus esclaves des Égyptiens. Bon, c'est assez triste, mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'ils étaient ignorants de qui était Dieu. En fait, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ils ne le connaissaient plus. Ils ne savaient rien sur lui, sinon le vague souvenir que leurs ancêtres avaient un Dieu. Et donc, ils s'étaient tournés vers les divinités égyptiennes. Dieu est préoccupé par cela, parce que c'est un gros souci, c'est un gros problème. Et donc, le premier souci de Dieu, c'est de leur montrer que ces divinités-là ne sont pas les divinités qu'ils doivent suivre, mais que lui est bien plus grand. Et donc, c'est pour ça que nous sommes amenés, et Dieu va se servir de la verge de Moïse pour justement faire des signes, et c'est ça qu'il va appeler, en Exode chapitre 7, il va appeler ça, non pas des plaies, mais il va appeler ça des signes, des prodiges, des miracles. Et parce que le but, ce n'est pas de faire souffrir le pays ou de détruire, de ruiner l'Égypte. Le but, c'est de démontrer aux enfants d'Israël, et chaque signe est contre une divinité égyptienne, et pour montrer combien il est plus puissant que ces divinités-là. Et donc, il va les éliminer une à une pour démontrer qu'il est supérieur à toutes ces divinités de l'Égypte, même si l'Égypte était une civilisation très avancée à son époque. Bon, entre-temps, dans le processus, eh bien, Pharaon aussi va découvrir que le Dieu, l'Éternel, le Dieu je suis, eh bien, est plus puissant que ses dieux à lui. Et donc, après, ce peuple va voir ces signes, et après avoir offert un sacrifice, un agneau, et avoir mis le sang sur les poteaux des portes d'entrée et sur le linteau, pour déjà, d'une manière, le sacrifice qui protège de la mort, eh bien, ils vont sortir de l'Égypte, ils vont suivre Moïse. Et il va les faire passer par la traversée de la mer Rouge. Il aurait pu suivre la côte méditerranéenne, et il n'y aurait pas eu de masse d'eau à traverser, et il serait arrivé, il nous dit dans Deutéronome chapitre 1, il aurait dit 11 jours auraient suffi pour arriver. Mais eux, Dieu a besoin de les faire passer par un point particulier, où ils seront seuls avec lui et confrontés à lui et devoir faire un choix. Hein, donc, il va les faire passer par la mer Rouge. L'avantage du passage de la mer Rouge, ce sera de pouvoir filtrer l'armée des pharaons, les arrêter, pour qu'ils puissent continuer tranquillement. Et ils vont arriver jusqu'au Sinaï, au pied de l'Horeb, et c'est là où Dieu va les parler. Ils sont bien disposés, ils voient que c'est un Dieu qui est plus fort, donc ça les intéresse, il pourrait bien leur rendre service, mais ce qu'on voit, il y a quelque part, même si ils arrivent dans le Sinaï, et puis là ils font des belles promesses, Dieu, nous garderons tes commandements, nous voulons te suivre, tu es notre Dieu, et toutes sortes de belles paroles. Et n'avons-nous pas fait cela aussi parfois dans nos prières, et nous avons promis au Seigneur des choses qu'on a vite oubliées, hein, sous le coup, dans la difficulté, eh bien on a promis beaucoup de choses, et puis quand la tempête est passée, eh bien nous avons aussi un peu oublié les grands engagements et les promesses. Mais et nous allons voir que dans les enfants d'Israël, finalement ils vont promettre beaucoup de belles choses, mais en fait ils vont suivre Dieu tant qu'ils pourvoient à ce qu'ils veulent. Hein, quand ils veulent quelque chose, ils le demandent, ils le veulent de suite, sinon chaque fois, ils menaçaient de retourner en Égypte. Ils savaient que cela ne plaisait pas à Dieu qu'ils retournent en Égypte, et donc c'était une manière d'essayer de mettre la pression sur Dieu pour qu'il intervienne, hein, et ils étaient un peu opportunistes. Et n'est-ce pas encore aujourd'hui, est-ce que nous avons beaucoup de gens qui se réclament de Christ, mais qui sont très opportunistes. Hein, pour eux, ce qui les a attirés, c'est le fait que si par la prière je demande à Dieu, et il donne, et j'ai besoin de ceci, et il a pourvoi, et j'ai besoin de protection, et il intervient. Il suffit d'utiliser le nom de Jésus, et au nom de Jésus, et tout est réglé. J'exagère un petit peu là, mais dans un sens, il y en a, c'est tout ce qu'ils veulent. Et si jamais ils prient et n'ont pas ce qu'ils veulent, si jamais ça dure un peu trop longtemps, eh bien eux, ils claquent la porte et ils disparaissent. Hein, et c'était un peu l'esprit des enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Oui, les belles paroles les premiers jours, mais après c'était très dur. Et Moïse était obligé d'être l'homme le plus patient du monde pour pouvoir supporter tout cela. Ce que Dieu recherchait, ce sont des hommes comme Josué qui a fait confiance à Dieu, qui était prêt à entrer en Canaan, qui savait que si Dieu l'avait promis, il l'aurait. Dieu voulait des hommes de foi comme Caleb, et Caleb qui, lui, eh bien, Dieu l'a promis, eh bien, je compte sur lui, et qui a été fidèle toute sa vie. Quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont rencontré Rahab, et souvent on retient seulement la partie Rahab, la prostituée, mais en fait la vertu qu'on trouve chez Rahab, c'était une femme de foi. Hein, lorsque les espions l'ont rencontrée, ils ont trouvé une femme qui, ayant entendu 40 ans plus tôt de tous les miracles et les signes que Dieu avait fait en Égypte, eh bien, c'était décidé que ce Dieu était le Dieu puissant. Et donc elle a fait confiance, et quand les espions lui ont donné un cordon rouge à mettre à la fenêtre de son appartement sur la muraille de Jéricho, eh bien elle l'a mise, elle a fait foi. Et Rahab, eh bien on la retrouve dans Hébreux chapitre 11, parmi tous ceux qui ont exercé la foi et que Dieu a reconnu leur foi. Même l'apôtre Jacques va faire mention de Rahab. En même temps que Abraham, pour lui, et Abraham et Rahab sont deux personnes qui non seulement ont eu la foi, mais qui ont agi selon leur foi. Leurs œuvres ont démontré leur foi. Hein, et c'est là où il dira, eh bien, la foi sans les œuvres est morte. Hein, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de leur foi, mais quand ils sont dans la situation, eh bien, leur foi n'est pas là. Hein, donc Dieu veut que c'est des personnes qui s'engagent. Hein, Rahab a quitté et s'est détachée de la ville de Jéricho. Elle était intégrée dans le peuple d'Israël, et on retrouvera son nom dans la généalogie de Christ dans Matthieu chapitre 1. Hein, donc c'est vraiment, elle a vraiment intégré le peuple de Dieu. Mais c'était un choix, c'était une décision. Vous allez dire, mais Steve, tu es un peu oublié, on est dans Ruth normalement. Et oui, je reviens à Ruth. Et je vous rappelle le détail que Ruth aussi, hein, dans le chapitre 1, a pris cet engagement. Elle a quitté son pays, elle a suivi Naomi jusqu'à la frontière d'Israël, et là Naomi a essayé de lui dire, écoute, pas la peine de venir avec nous, c'est pas la peine de me suivre, rentre chez toi, il y a plus à espérer chez toi et dans ton pays, parce que moi j'ai absolument rien à proposer, je n'ai plus rien. Mais c'est là où Ruth, eh bien, prononce cette parole d'engagement, hein, et elle dit, je vais lire ces paroles, donc c'est dans Ruth chapitre 1, les versets 16 à 18. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Voilà. Quelque part, quelque chose s'était passé dans le cœur de Ruth. Elle a dit, moi, je romps avec le passé, avec mes origines, avec tout cela, et maintenant, je m'attache à un nouveau Dieu, un nouveau peuple, et ce sera la suite, et c'est une décision, un non-retour, hein, elle ne reviendra jamais. Et Ruth a laissé la divinité de Moab, hein, comme on a dit, Kemosh, hein, l'un des rites qui accompagnait le Kemosh, ben, c'était l'offrande humaine, le sacrifice humain. Vous connaissez Salomon. Salomon avait été, il avait pris pas mal de femmes étrangères, et l'une d'elles était de Moab. Et donc, elle a voulu qu'il construise un temple pour elle. Et donc, il a construit à Jérusalem un temple à Kemosh. on est compte l'influence qu'a eu et ce qu'il a pu accomplir, alors que sa arrière-grand-mère, eh bien, avait quitté tout cela. Elle avait abandonné tout cela pour venir en Israël. C'est extraordinaire des fois comment on peut avoir les parents qui ont fait un choix et pour leurs enfants, et puis que les enfants retournent à cela. C'est triste parfois. Mais Ruth, non seulement elle n'était pas opportuniste, Naomi n'avait rien à lui offrir, mais rien à lui proposer. Il ne lui a pas promis du bonheur et ni une belle et longue vie. Mais Ruth voulait quitter ce qu'elle connaissait pour s'attacher à ce qu'elle avait vu dans la vie de Naomi. Et donc, elle n'est pas attentiste non plus. Elle ne dit pas, ben, j'attendrai, je verrai comment les choses vont. Si ça va mieux pour Naomi, ben, je la rejoindrai. Et si les choses ne s'arrangent pas, ben, je resterai. Non, non, pas du tout. Elle, c'est comme ça. Et on trouve encore des gens aujourd'hui, ils disent, oui, bien sûr, je veux croire à tout ça, mais bon, quand je serai vieux, vous prenez de gros risques quand vous dites que quand je serai vieux. Parce qu'en général, quand on est plus âgé, c'est plus difficile. Hein, la plupart des gens qui viennent à Christ viennent dans leur jeune âge. Et plus on attend, plus ce sera difficile. Donc, pas parce que Dieu rend ça difficile, c'est parce que nous, on s'est un peu plus figé dans nos pensées, dans nos voies, nos philosophies, et on a du mal à changer lorsqu'on arrive à un certain âge. Et donc, Ruth, elle, s'est engagée. Et même Boaz, la première fois qu'il rencontre Ruth, il va lui parler, il va dire, mais j'ai entendu ce que tu as fait. Il lui dira, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point avant. Que l'Éternel te rende tout ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Voilà comment il l'a exprimé. Il a dit, tu as quitté, c'est pas que tu n'avais rien, et tu es parti parce qu'il n'y avait plus rien. Non, tu avais tout, tu as quitté ce que tu connaissais, ce que tu avais, pour venir te réfugier sous les ailes de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est cet engagement-là et que nous devons prendre. Cette histoire est là pour illustrer ce fait. Et pour chacun d'entre nous, il y a un moment où nous devons faire ce choix. On arrive à une frontière entre notre passé et notre présent. Et la frontière, ben, elle est là dans le présent. Hein, c'est là où je suis aujourd'hui. Hein, je peux faire de ce jour la frontière. Et je dis, maintenant, je fais ce choix, je décide de suivre Dieu. Hein, je me confie entièrement à lui et pour le suivre jusqu'au bout. Hein, comme Ruth, elle l'a fait et Dieu va l'honorer, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Vous avez remarqué que peut-être dans le chapitre 1 de Ruth, lorsque Naomi rentre à Bethléem, eh bien, les femmes de Bethléem la reconnaissent, hein, malgré le temps qui est passé. Et elle dit, ah, Naomi, Naomi! Et elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, amertume, parce que, et c'est très intéressant ce qu'elle dit. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. J'étais dans l'abondance à mon départ, ben alors pourquoi est-ce que tu es parti? Oui, bien sûr, le début du chapitre 1 nous dit qu'il y avait une famine en Israël, et que c'était pour cela que Élimélec avait pris ses deux fils et sa femme, et puis était descendu à Moab. Mais si je comprends bien ce qui s'est passé, c'est que Élimélec est descendu en Moab, c'était pour préserver son bien. il voyait qu'une famine arrivait, qu'il y a eu, il allait y avoir de la perte, et lui, il ramasse tout son bien, il vend ses propriétés, ses champs, et puis il prend l'argent, et puis il descend à Moab, et je vais vivre ma vie, je serai à l'aise, et puis je reviendrai quand ça ira mieux. Et Naomi dit, on a tout perdu. Et en fait, lui, il a voulu être utiliser ses moyens et par ses propres forces et sa propre ruse et sa propre intelligence pour essayer de préserver sa vie, et il a tout perdu. Boaz, qui était resté, hein, qui était un proche parent, donc il avait vécu la même situation, eh bien Boaz était resté à Bethléem, il avait fait confiance à Dieu, et Dieu l'a préservé, ou il s'est enrichi, ou il a préservé sa richesse, celle qui était dans la famille déjà, mais en tous les cas, il est en bonne position, et au point où il peut être généreux, et il va être généreux, et, surtout avec Ruth. Ruth est venue en Israël, c'est pour trouver refuge. Hein. C'est ça que Boaz avait compris, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Hein, donc, Élimélec était parti pour protéger son bien, et il était en mesure de le faire. Mais Dieu avait protégé Boaz. Et Ruth va être comblée. C'est intéressant comment c'est dit dans le chapitre 4. Là, Boaz a pris, il nous dit verset 13, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Il permit. Vous savez, il n'y a rien de plus naturel, plus normal pour une jeune femme de pouvoir concevoir, d'avoir un enfant. C'est la chose normale. Mais là, il dit, il permit. Ce qui nous laisse supposer peut-être qu'il y avait un jugement sur Élimélec parce qu'il avait pris les choses entre ses propres mains, il n'avait pas fait confiance à Dieu. Eh bien, quelque part, ses deux fils n'ont pas pu avoir des épouses qui leur ont apporté des enfants. Et Naomi n'a pas de petits-enfants, elle n'a pas d'héritier. Mais parce que Ruth est revenue, elle s'est remise entre les mains de Dieu, elle a remis son sort entre les mains de Dieu, et elle était prête à vivre pour lui, eh bien, la malédiction ou le jugement qui pouvait exister a été levé, et elle a pu avoir un fils. Et c'était à un tel point que les femmes de Bethléem ont dit à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Qu'est-ce qui a changé la situation? Et là, je ferai un peu référence à notre prédication de dimanche dernier, mais c'est en fait ce personnage qui pouvait racheter, hein, donc, et puis ensuite, et qui était prêt à le faire, qui était disposé à le faire, et Ruth qui a été allée vers lui et dire, écoute, je veux bien que tu me rachètes, je veux être à toi. Et là, les choses ont changé et elle était dans l'abondance. Et on avait dit la semaine dernière que, en fait, nous, notre Boaz, parce que c'est Jésus-Christ, hein, celui qui a le droit de rachat, qui est disposé, qui a les moyens de racheter, qui veut racheter, parce que par amour pour nous. Et c'est important pour chacun d'entre nous de venir et de lui dire, je veux que tu me rachètes. Je veux être à toi, je veux être ta propriété. C'est pas seulement je te donne mes péchés, prends mes péchés et laisse-moi vivre. C'est une question, je me donne à toi. Hein? Ruth, c'est pas seulement donne-moi le champ, et rachète le champ et puis après je me débrouille. Non, elle se donne à Boaz. Et Boaz, va lui donner une autre vie. Et c'est ainsi que nous venons à Christ. Hein, donc il y a un moment où il faut quitter la vie passée, les principes de la vie passée, et venir et vivre cette nouvelle vie avec avec notre celui qui a eu le droit de rachat, celui qui nous a rachetés. Pour nous, hein, c'est Jésus-Christ qui nous a rachetés grâce à son sang sur la croix et qui nous offre une nouvelle vie. Qui nous a racheté, c'est pas seulement qu'il a pris notre péché, oui, c'est vrai qu'il est devenu péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu, mais il nous a racheté nous aussi. Et tellement il nous a désirés, c'est justement pour cela que nous savons qu'il y a une résurrection, parce que non seulement est-ce que notre âme et notre esprit vont auprès de Dieu, mais en plus il reviendra pour ressusciter le corps. Il veut l'être tout entier. Hein, donc, puisqu'il veut tout cela, donnons-le lui maintenant. Et vivons pour lui. Et Ruth va avoir un fils qu'on appellera Obed. C'est curieux qu'on lui donne un tel nom, parce que ça veut dire serviteur, hein, celui qui sert. Et on ne sait absolument rien sur lui. Son nom paraîtra par deux généalogies dans l'Ancien Testament, des généalogies de David, hein, le roi d'Israël. Et puis, son nom paraîtra dans les deux généalogies de Christ, hein, donc le roi des rois, hein, le seigneur des seigneurs. Mais sinon, lui-même, eh bien, on ne sait pas grand-chose sur lui, mais sinon, le fait qu'il est le grand-père du petit berger de Bethléem qui va vaincre Goliath, qui va libérer le peuple et qui deviendra le roi d'Israël. Et par la suite, Jésus sera appelé le Jésus fils de David. Hein, donc, en fait, tout est lié et nous avons le sauveur. Et Ruth a fait un choix important. Elle a coupé avec le passé. Hein, son Égypte, elle l'a quitté pour rentrer dans son nouveau Canaan. Et elle s'est engagée pour ne plus retourner. Hein, et pour elle, ce n'était pas une question. Elle était prête à être parmi les plus pauvres de Bethléem. Mais elle voulait être avec le peuple de Dieu. Hein, donc, et c'est vraiment cette attitude extraordinaire, et cette attitude, dans les familles juives, eh bien, on fait toujours référence à Ruth comme modèle. Hein, donc, mais pour nous, en tant que chrétiens aussi, elle est un modèle, et son histoire, eh bien, c'est un exemple, une expression de justement ce choix que nous devons faire. L'histoire de Ruth, eh bien, est pour nous une image de celui ou celle qui quitte le système dans lequel il est né pour se donner complètement et de manière définitive à la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et c'est un engagement, comme Ruth disait, je suis avec toi dans les bons et les mauvais jours. Hein, et dans un sens, on vient à Christ et on lui dit, moi je te suis non pas parce que je vais forcément avoir des jours meilleurs, parce que beaucoup de personnes sont venues à Dieu et c'était le début de la partie la plus difficile de leur vie, hein, ils ont souffert pour leur foi, mais ils sont venus à Christ pour Christ, ils voulaient avoir Christ, hein, et c'est l'apôtre Paul qui exprime son désir de il a désiré Christ par-dessus tout, hein. Et donc finalement sa nouvelle identité, eh bien, elle est associée à la personne de Christ, hein, et c'est chaque fois qu'il se présente, eh bien, il est associé à Christ, chaque fois dans sa manière de vivre, elle est associée à Christ, dans ses espérances, elle est associée à Christ. C'est ça, cette nouvelle vie. Et Ruth est une très belle illustration de justement cela. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, qui avaient un petit problème avec la vie passée, et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il va dire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. » Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein, ce qui est passé, ne peut pas revenir, sinon c'est plus du passé. C'est passé et reste passé. Hein, Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël retournent en Égypte. Hein, maintenant, on continue de l'avant et on marche selon de nouveaux principes. Et nous, en Jésus-Christ, eh bien, ce n'est plus la vie passée, mais c'est toujours cette vie nouvelle en Christ. Et mon épouse et moi, ça fait 46 ans que nous sommes mariés. Et au moment de notre mariage, eh bien, nous avons choisi un passage biblique qui serait le thème de notre vie ensemble. Et même la référence, nous l'avons gravée dans nos alliances. C'est ce verset qui se trouve dans Philippiens chapitre 1 et versets 20 et 21. Et je vais vous lire. Mais c'était ça l'engagement que nous avons pris ensemble en tant que mariés et devant le Seigneur. Il dit « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. C'est un engagement total, hein, comme Ruth, eh bien, c'est lié à Naomi pour le pire et pour le meilleur. Et finalement, ça a bien terminé, heureusement. Mais de même, notre engagement avec le Seigneur doit être total et sans condition. Hein. Je suis attaché à toi. Peu importe ce que ça peut entraîner comme conséquence. Je suis attaché à toi et finalement, c'est comme pour Ruth, ça s'est bien terminé. Et pour nous aussi, ça se termine bien parce que nous avons cette promesse. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai afin que là où je suis, vous soyez aussi. Hein, donc, c'est garanti et c'est par la foi que nous avons cela. Alors, pourquoi ce chef-d'œuvre est-il dans la Bible? Eh bien, pour illustrer l'engagement qui plaît à Dieu. Finalement, ce thème de cet engagement, eh bien, on le trouve tout le long de la Bible. Hein? Et donc, c'est pas changé pour nous aujourd'hui. Et donc, c'est ce que nous voulons faire aussi. Et je propose qu'on chante des paroles d'un cantique d'engagement. Et donc, nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. Et voilà le chant que nous voulons prendre et nous allons chanter les trois premières strophes de ce chant. Nous sommes au Seigneur. L'éternité, Jésus, que tu nous aimes, ta croix nous a rendu. Louez-le pour nous sommes au Seigneur, vivons pour ta gloire. Chaque jour, les fruits de sa victoire, et reposons en paix, dansons sa paternelle. Nous sommes au Seigneur, que nos âmes te louent, que nos aussi bénisse ton amour. Ô Jésus, métier d'un souvent des amours, je voudrais être à toi et à toi sans retour. prions ensemble. Père Céleste, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous pensons à ton amour et toi qui as pris cette initiative de nous aimer alors que nous étions encore des pécheurs. Et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix. Tu as mis en place un salut complet. En fait, tu as même pu dire, alors que tu étais encore sur la croix, et juste avant de rendre l'esprit, tu as dit, tout est accompli. Et en quittant la terre, eh bien, il nous dit l'Épître aux Hébreux que tu as porté ce sang dans le lieu très saint, dans le lieu, dans la présence même de Dieu, afin que le sacrifice soit accepté, approuvé. Et la preuve que nous avons que ça a été approuvé, c'est que ton esprit est venu à Pentecôte et qu'il vient encore sur chacun qui vient à toi. Seigneur, toi tu as tout fait, tu es fidèle. Maintenant c'est à nous de prendre cet engagement qu'illustre si bien Ruth. Elle a quitté une société où elle n'a pas décrit, elle ne nous a pas dit ce qu'elle quittait, elle nous a dit seulement qu'elle quittait tout cela pour se donner entièrement, s'attacher pleinement à ce nouveau peuple. Et elle a intégré ce peuple, elle est dans la généalogie du roi d'Israël, elle est dans la généalogie du Messie. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait ce choix. Le choix que tu avais voulu des enfants d'Israël au pied du mont Horeb, le choix que tu as voulu de la femme samaritaine, dans là près du puits, et elle l'a fait. Et le choix que tu as voulu chez l'apôtre Paul, quand tu t'es révélé à lui, et c'était un tournant dans sa vie, il vivait plus selon les mêmes principes, et c'est aussi, Seigneur, c'est ce tournant que nous voulons dans nos propres vies. Et tu sais, pour chacun qui écoute cet enregistrement, Seigneur, tu sais où il se trouve. Peut-être est-il encore dans son Moab et il a besoin de quitter. Peut-être qu'il est à la frontière entre son Moab et son Israël. Et peut-être qu'il a traversé, il a fait ce choix, mais finalement il y a eu des hauts et des bas et l'engagement n'était pas total et c'était un peu opportuniste et parce qu'on avait promis que interviendrait, répondrais à tous les besoins ce n'est pas cela que tu t'es engagé. Tu as promis d'être notre Seigneur, d'être avec nous. Et nous voulons être attachés à ta personne. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à vraiment comprendre, de venir à toi. Bien sûr que grâce à la croix, tu peux pardonner notre péché, donc l'obstacle est écarté. Et maintenant, tu nous demandes de vivre pleinement pour toi. Et un engagement total et sans retour et sans condition. Et Seigneur, tu connais chaque cœur. Tu sais ce qui et c'est à toi, c'est toi que nous voulons plaire parce que c'est toi qui as tout donné pour nous. Et donc, Père Céleste, je te prie pour chacun qui écoute que tu interviennes selon son besoin. Et que tu lui donnes une réponse pour sa vie, afin qu'il puisse découvrir. Ruth a découvert une autre vie, et elle s'est épanouie dans cette nouvelle vie, et nous voulons découvrir cette nouvelle vie aussi en toi, et nous épanouir, et que nous puissions de plus en plus trouver notre identité en toi. Père Céleste, merci pour ces pensées, et qu'elle reste avec nous, et qu'elle nous accompagne tout le long de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen.